Dès la lecture du premier verset de Parashat Vayikra, on est interpellé par ce verset, puisque le verset dit Vayikra el Moshe, il appela Moshe. Plus tard, le verset dit Vaïdaber Hashem Elav, et Dieu lui parla. Il appela Moshe, quelqu'un appelle ici Moshe, il est clair qu'il s'agit de Dieu. Pourtant, le verset fait omission du nom qui appelle Moshe, du nom de celui qui appelle Moshe. Il n'est pas dit Vayikra Hashem el Moshe ou Vayikra Elokim el Moshe, ou un des autres noms dont la Torah a usage d'utiliser pour parler de Dieu. Et Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le Admor HaZaken, rappelle cette question posée par le Zohar. Qui appelle donc Moshe ici, même s'il est clair et certain que c'est bien Dieu qui appelle Moshe, pourquoi ne pas spécifier de manière claire dans le texte lui-même, Vayikra Hashem ou Vayikra Elokim el Moshe. Pourtant, cela n'a pas été fait. Et à cela, nous avons deux explications qui paraissent a priori deux explications qui sont opposées, qui sont à l'extrême, qui sont paradoxales. Et pourtant, nous en ferons une fusion, une union pour retrouver une seule entité, un seul message. La première explication consiste à dire que c'est dans son quotidien que Dieu parle à Moshe, et s'il vient lui parler dans son quotidien, il s'agit là d'une révélation qui est en deçà du nom de Dieu, au-dessous du nom de Dieu, plus bas que le nom de Dieu, et c'est la raison pour laquelle cet appel dans le quotidien, dans l'aspect naturel et matériel de Moshe, ne peut être accompagné du nom de Dieu. Parce qu'il vient s'investir dans quelque chose qui est un peu plus bas, bien plus bas, que le nom de Dieu. L'autre explication est totalement à l'opposé. L'autre explication dit que la révélation que Dieu procède ici est bien au-delà du nom de Dieu. Elle ne peut se caractériser, se mesurer ou être qualifiée par une des appellations de Dieu, et c'est la raison pour laquelle il est dit tout simplement, et il appela Moshe, car c'est l'essence de Dieu qui vient parler ici à Moshe. Vous conviendrez donc qu'il y a a priori une opposition entre ces deux explications. Pourtant, nous verrons que ces deux explications viennent bien au contraire se rejoindre pour ne faire plus qu'une à l'image de l'unité de Dieu. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'une autre manifestation de ce genre, qui est en rapport avec le mois dans lequel nous nous trouvons, qui est le mois de Hadar. Dans le mois de Hadar, un des points essentiels du mois de Hadar, c'est bien sûr la fête de Pourim, dans laquelle nous lisons la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Rappelons que le rouleau d'Esther est un des 24 livres que constitue le canon biblique, constitue le Tanakh. Or, la Megillat Esther est le seul de ces 24 livres dans lequel il ne soit pas cité, même une seule fois, le nom de Dieu. Et pour cela, nous retrouvons encore deux explications qui sont totalement opposées. La première, c'est celle du Aven Ezra. Puis Avraham Ibn Ezra nous dit que du fait que la Megillat Esther ait été écrite en perse, en hébreu bien sûr, mais dans l'Empire babylonien, en perse, les auteurs, c'est-à-dire Esther et Mordechai, craignaient à ce que si nous y inscrivons le nom de Dieu, lorsque les autres nations viendraient, et à commencer par Babel, viendrait à traduire ce récit extraordinaire qu'est le récit de la Megillah, lorsqu'il buterait sur le nom divin, le nom du Dieu unique, il le changerait, il le transformerait avec un nom d'un de leurs dieux, d'une de leurs idoles, pour ne pas en venir à cela, pour ne pas en venir à inviter de manière inconsciente les autres nations à prononcer le nom d'un de leurs dieux, les auteurs de la Megillah, Mordechai et Esther, ont préféré ne pas citer du tout le nom de Dieu, pour que celui-ci ne soit pas transformé plus tard dans l'histoire par le nom d'une idole. Donc nous nous trouvons dans une situation des plus basses, dans une situation des plus éloignées de la divinité, puisque au contraire, nous prenons des précautions pour ne pas que l'idolâtrie s'installe. Ce qui exprime bien là tout l'esprit de l'exil, tout l'esprit du galout dans lequel nous nous trouvons, où tout en étant dans une situation où Dieu intervient, tout en étant dans une situation même à cette époque-là de l'exil à Babel, Dieu vient même se révéler de ses d'une manière la plus extraordinaire à son prophète Yéhézkiel. Cependant, cela n'a aucune emprise et n'agit en rien sur les populations qui restent totalement des populations d'idolâtres. Et au point où il faut prendre des précautions, lorsque l'on raconte une histoire, ne pas citer un nom de Dieu pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté chez celui, chez l'auditeur. Et puis, l'autre explication qui est proposée, c'est une explication de la mystique juive, qui vient nous expliquer qu'en fait, en effet, dans la Megillah, il n'y a pas de nom de Dieu, certes. Néanmoins, dit Rabbi Chaim Vital dans le Etzraïm, l'élève de Rabbi Tzrak Luria, nous dit que nous pouvons trouver dans différents versets, dans différents mots, sous forme d'anagramme ou de rachet et vote, d'acrostiche, ou sous forme de sophet et vote, de dernière lettre des mots d'un verset, qui se reconstituerait, on pourrait retrouver le nom de Dieu. Mais donc, le nom de Dieu y est caché, il n'y est pas cité de manière explicite, ça, on en convient. Pour quelle raison, nous dit le Hatzraïm? Parce que Dieu qui se révèle au moment de l'histoire de Pourim, c'est une révélation qui est au-delà même de l'expression du nom quel qu'il soit, du nom divin. C'est-à-dire que le nom divin vient qualifier un caractère, un attribut du divin, tandis que ce qui vient se révéler dans le récit de Pourim, c'est plutôt l'essence divine qui est au-delà de toute caractéristique, qui est au-delà de toute définition. Ainsi, nous pouvons dire en fait que par cette explication du Ezraïm, nous pouvons relier les deux extrêmes. Car en effet, l'essence de Dieu, le plus haut niveau, vient donc intervenir et s'inscrire dans ce qui est le plus bas, dans la plus basse des dimensions de l'exil. C'est ce que nous pouvons donc dire aussi au sujet de Vaïkra. Vaïkra El Moshe, il appela Moshe sans spécifier qui est ce qui appelle. En effet, d'une part, c'est parce qu'il vient lui parler à Moshe, alors qu'il est dans son quotidien, alors qu'il est dans son état le plus physique. Donc, c'est bien ici-bas que les choses se passent, en deçà du nom, mais c'est qui précisément, qui peut se révéler dans un degré aussi terrestre, aussi bas, c'est uniquement le degré le plus haut, c'est-à-dire l'essence de Dieu. C'est parce que c'est l'essence de Dieu qui se révèle là qu'elle vient se révéler jusqu'aux éléments les plus terrestres, jusqu'aux éléments les plus bas, jusqu'à même être le Vaïkra. Il appela, sans même définir. Qui est-il? Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de cela? En fait, l'enseignement est un enseignement assez simple. Nous devons savoir que même lorsque nous nous trouvons dans une situation d'exil, même lorsque nous nous trouvons dans une situation décrite plus haut par Rabbi Avraham Ibn Ezra, dans une situation dans laquelle l'interprétation des mots que nous allons prononcer sera dans le flou total, au point où l'autre pourra peut-être comprendre du récit que nous en ferons. Il s'agit là d'une autre déité. Nous ne devons pas faire l'économie de retranscrire l'histoire, de rappeler, de divulguer, d'enseigner, de partager avec les autres l'idée de la divinité qui vient ici-bas rayonner, éclairer ce monde. C'est là, même dans un monde où Ahasvérosh est encore présent, c'est-à-dire où nous sommes encore soumis à l'exil, où nous ne sommes qu'une minorité parmi les nations, des nations qui, ô combien nous en prenons conscience tous les jours, et l'actualité, malheureusement, nous le rappelle, des nations qui pointent encore une fois et toujours du doigt sur la communauté juive ou sur Israël, pourtant, même dans cette situation, et précisément dans ces situations, nous avons le devoir de transmettre le message que Dieu nous a transmis de manière la plus claire, la plus précise. L'appel de Dieu doit atteindre tous les niveaux. Ainsi, cet appel vient conquérir les sept territoires et les trois terres qui nous sont promises. C'est-à-dire, en fait, selon la mystique juive, les sept attributs sentimentaux qui habitent l'homme, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, et les trois forces sentimentales, la sagesse, l'analyse et la connaissance. C'est ainsi que nous procédons tout d'abord à sa Géoula personnelle, à sa, un mot que j'aime pas trop, à sa rédemption personnelle, qui veut en fait dire sa libération, le fait à ce que nous invitions le divin dans notre quotidien le plus bas, cela bien sûr, grâce à l'étude, grâce à la rencontre de Dieu dans le texte, grâce à la rencontre de Dieu dans l'action, comme nos maître de la Chassidoute disait, lorsque l'on a la chance d'ouvrir l'Ikoutei Torah, qui est un des livres de Rabbi Shneur Zalman, alors nous prenons conscience que Yadativ, je viens à la connaissance de Dieu, je le connais, alors je le suis. C'est-à-dire que il y a là une fusion entre l'homme et le divin, entre la connaissance qui vient habiter l'homme au point à ce qu'il sent le divin dans tout son être l'habiter. C'est là le Vayikra, c'est l'appel du divin qui est quotidien dans notre train-train, dans nos contraintes de l'exil, dans nos obligations professionnelles, familiales et sociales. C'est ainsi que l'on retrouve Dieu et c'est ainsi que nous nous libérons de ses propres contraintes parce que nous donnons un sens à cette vie. C'est là l'avant-goût messianique avant le temps. Yehi Adonai nous morenu verabenu melech Mashiach l'olam ved.